Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Coucou. Le 4 janvier 2023, Anna Walsh, maman de 3 enfants, est portée disparue par son employeur. Elle ne s'est pas rendue au travail et est injoignable depuis plusieurs jours. Son mari, Brian, contacte lui aussi dans le même temps les autorités. Sa femme est partie au travail, puis elle s'est volatilisée. La dernière fois qu'elle a été vue en vie par quelqu'un d'autre que son mari, c'est le 1er janvier, lors du dîner organisé chez elle le soir du Nouvel An. Ensuite, c'est le trou noir. Alors, qu'a bien-t-il pu se passer au sein du domicile de la famille Walsh en cette nuit du 1er janvier? Anna est-elle bien partie pour une urgence professionnelle comme le dit Brian? Est-ce que ses 3 petits ont vu ou entendu quelque chose à l'intérieur de cette grande maison? Depuis quand n'ont-ils pas vu leur mère? L'histoire derrière la disparition d'Anna Walsh a horrifier l'Amérique et s'apprête à vous emporter à votre tour dans les méandres de l'esprit humain. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tous de My Skies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler d'une affaire très récente puisqu'elle débute en janvier 2023 avec la disparition d'Anna Walsh qui se réveille en gros le 1er janvier à 4h du matin et qui explique à son mari qu'elle vient de recevoir un message et qu'elle doit partir au travail en urgence, puis se volatilise. Alors je vous rassure, même si l'affaire est très récente, j'ai énormément de choses à vous présenter pendant cet HVF. On a des images de vidéosurveillance, des éléments qui ont été retrouvés ici et là, et bien évidemment que la piste du mari a été fouillée par le FBI, et malheureusement vu tout ce qu'on a trouvé pendant l'enquête, ça laisse rien de présager de bon pour le moment en tout cas. Je vous en dis pas plus, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt entre gros guillemets aux 2 millions, on a le droit de rêver, et on est parti. Dernier signe de vie. Notre histoire prend place aujourd'hui, non pas en France comme la dernière HVF qui vous a d'ailleurs beaucoup plu, merci, mais on est déjà de retour aux États-Unis d'Amérique, et plus précisément à Cohasset, dans le Massachusetts, au nord-est du pays. Cohasset, c'est typiquement le genre de petite ville que l'on voit dans les téléfilms de l'après-midi. Il y a 8000 habitants, de très belles maisons fraîchement repeintes, tout est propre, carré, même la route semble toute neuve. Enfin, je veux dire, on peut pas faire plus américain que cette maison. La voiture familiale dans l'allée qui n'est pas clôturée, la petite boîte aux lettres, le drapeau américain, la grande baraque et les vélos des enfants dehors. Bref, Cohasset, c'est ce genre d'endroit très tranquille dans lequel il ne se passe jamais rien, ou en tout cas, il n'y a jamais eu d'histoire aussi horrible que celle dont on va parler aujourd'hui. Mais pour en parler, il faut déjà commencer par le début, la disparition d'Anna. Anna, vous le verrez quand on parlera d'elle en détail, mais c'est une femme très appréciée que tout le monde décrit comme gentille, passionnée, toujours prête à accueillir ses amis chez elle, qui aime bien évidemment plus que tous ses enfants, mais on parlera de tout ça après. En cette soirée du 31 décembre, Anna et Brian Walsh reçoivent chez eux des amis, dont Jem Mutlu, qui témoignera plus tard, et c'est surtout grâce à lui que l'on sait comment se passe cette soirée.
Meal for us, and we hugged and celebrated and toasted, and just what you do over New Year's, and there was a lot of looking forward to the new year. Like there was no indication.
On sait donc que la soirée du Nouvel An se passe bien. Dans l'affaire, c'est cette soirée qui est la plus importante puisque ce sera le dernier moment où Anna est vue en vie par des gens extérieurs à son foyer. Parce que dans ce genre d'affaire, personne ne croit jamais ce que dit le mari, vous imaginez bien. Cette soirée du 31 décembre se passe donc parfaitement bien. La famille boit un peu, mange des toasts, puis vient minuit, tout le monde se souhaite la bonne année. Anna est décrite pendant cette soirée comme tout à fait normale. Elle tente même de joindre sa mère Milanka par deux fois pour lui souhaiter la bonne année, mais celle-ci ne répond pas. Alors elle essaie d'appeler sa sœur qui est au Canada, mais elle aussi lui met des vents. Bon, tant pis. On sait d'ailleurs que la mère d'Anna comptait lui rendre visite vers le 5 janvier parce qu'elle ne vit pas aux États-Unis mais en Europe de l'Est, donc le voyage coûte cher. D'après Jem Mutlu, l'ami qui était présent cette soirée, tout le monde a quitté le domicile des Walsh vers 1h30 du matin. La soirée s'est pas éternisée, c'était bonne ambiance et il n'a rien remarqué de spécial. Brian lui a juste dit que dernièrement, il avait paumé son téléphone portable, impossible de le retrouver. C'est dès le lendemain matin, le 1er janvier 2023, que l'affaire Anna Walsh s'écrit. D'après Brian, Anna se lève assez tôt, un peu en panique. Elle a reçu un message d'urgence et doit reprendre le travail plus tôt que prévu. Elle travaille dans le secteur immobilier à Washington et gère de grosses affaires pour sa boîte, la Tishman Speyer, qui gère de gros biens immobiliers à travers le monde. D'après Brian, elle se lève à 4h du matin, alors que la soirée du Nouvel An s'est terminée il y a à peine quelques heures. Anna avait de base prévu de retourner au travail à Washington le 3 janvier, mais elle a donc avancé son départ pour gérer l'urgence. Le 1er janvier, à 4h du matin environ, elle quitte donc son domicile, puis se volatilise. Elle n'arrivera jamais à l'aéroport, ne prendra pas le vol pour Washington prévu tôt ce matin. 3 jours complets vont passer, 3 jours pendant lesquels Brian Walsh n'a aucune nouvelle de sa femme. Elle ne répond pas à ses SMS, ne répond pas à ses appels, ne réagit pas quand il envoie des photos des enfants. Rien de rien. Le 4 janvier, l'employeur d'Anna contacte Brian pour l'informer de l'absence de sa femme au travail et du fait qu'il va contacter les autorités. Anna, c'est quelqu'un de très sérieux qui a au poste de directrice dans un domaine précis dans la société, jamais elle ne disparaîtrait comme ça sans raison. C'est à ce moment-là que Brian commence à s'inquiéter plus que tout. Il appelle d'abord des amis d'Anna et laisse des messages sur leur boîte vocale.
Good afternoon, it's Brian Walsh. I hope all is going well. I was just reaching out to basically everybody I could. Anna hasn't been in touch for a few days. Do you know anyone that might have that contact with her? Calling everyone. Sorry to bother you. Sure, everything's fine.
Mais tous les amis d'Anna répondent la même chose à Brian. Non, ils n'ont eu aucune nouvelle d'elle et pour la plupart, leur message de bonne année est resté sans réponse alors qu'ils ont envoyé un petit message ou même répondu au message d'Anna dès le 1er janvier. Contactés, les autorités de Cohasset prennent la disparition d'Anna très au sérieux, surtout lorsqu'ils apprennent qu'elle serait, toujours d'après Brian, partie en pleine nuit rejoindre l'aéroport le plus proche en prenant un covoiturage de dernière minute sur une application mobile. Les enquêteurs de Cohasset envoient tout de suite une requête au FBI pour les aider. Comme souvent, on est dans une petite ville de moins de 10 000 habitants, les flics du coin n'ont pas énormément de moyens humains, matériels ou financiers, parce que, par exemple, si on fouille une zone en hélicoptère, c'est tout bête, mais le gasoil, faut bien le payer. Et dans une petite ville comme Cohasset, les comptes du commissariat du coin, c'est pas l'Eldorado. Le FBI est déployé sur place très vite, une fouille massive des bois aux alentours du domicile du couple est organisée. 20 soldats ultra spécialisés dans la recherche et sauvetage en forêt sont déployés, en plus des bénévoles qui participent à la recherche. Un hélicoptère survole la zone, des chiens sont envoyés pour voir s'ils sentent l'odeur d'Anna quelque part. Les deux premières hypothèses qui viennent tout de suite aux enquêteurs, elles sont pas bêtes. La première, c'est que Anna a pris un covoiturage, elle est tombée sur un prédateur, mauvais endroit, mauvais moment, l'affaire va être vite bouclée. Dans 10 minutes, l'HVF est terminé et on est au lit. La seconde, un peu plus bancale, mais je vous la dis quand même, c'est que Anna, lorsqu'elle se réveille à 4h du matin et qu'elle dit à Brian, qui est encore dans les vapes, qu'elle est appelée en urgence pour le travail, en réalité, elle est encore alcoolisée. Elle est bourrée, elle raconte n'importe quoi, elle a l'impression qu'on est déjà le 3 janvier et Brian réagit pas plus que ça parce que lui aussi, il est un peu fatigué. Anna part. Et il lui arrive quelque chose dans les bois. Bon, pourquoi pas, après tout, l'alcool, ça peut jouer surtout pendant une nuit de Nouvel An. Je pense que certains d'entre vous le savent mieux que d'autres. Bon, dans les bois, on trouve rien. Aucune trace d'Anna. Alors, le FBI contacte les différentes plateformes de taxi privé ou de covoiturage avec les informations disponibles. On a de la chance, on sait à quelle heure Anna part de chez elle, à peu près, donc ça devrait être simple de retrouver sa course. Mais toutes les plateformes de covoiturage ou de taxi privé sont absolument formelles, il n'y a aucune course de commandée au nom d'Anna Walsh à son domicile de Cohasset dans la nuit du 1er au 2 janvier vers 4h du matin. Anna n'a donc jamais pris le taxi cette nuit-là et elle n'est pas non plus partie avec sa voiture. Donc elle est soit partie à pied, soit elle avait rendez-vous avec quelqu'un. Des plongeurs sont même déployés dans les petits ruisseaux alentour. La piscine de la famille Walsh est vidée. Pendant 2 jours complets, la petite ville de Cohasset est complètement retournée par l'armée de flics et d'enquêteurs du FBI qui débarquent sur place. Anna ne s'est pas évaporée sans laisser de traces. Parce que sinon elle est forte, hein, puisque même les caméras de surveillance qui sont aux alentours de la maison ne la repèrent à aucun moment en train de sortir. Je veux dire, on voit juste Brian, voilà, faire des petits allers-retours, sortir comme ça de temps en temps de la maison. Il est pas sorti avec le corps de sa femme découpé dans ses poches quand même. Ben me regardez pas comme ça, moi je dis ça comme ça. Puisque Brian, avant même que sa femme ne soit portée disparue le 4 janvier, il sort. Le 1er, par exemple. Il se lève à 7h, prépare le déjeuner des 3 petits garçons, reste avec eux toute la matinée, puis la babysitter prend le relais en début d'après-midi. Vers 15h, Brian dit avoir été à l'épicerie du coin et il a rendu visite à sa mère à Swampscott pour lui souhaiter la bonne année. Swampscott, c'est à environ 1 heure de route. Et ce jour-là, ben Brian, il s'est paumé. Il est rentré chez lui à 20h parce que, souvenez-vous, il a perdu son téléphone. Il le dit à l'un de ses amis pendant la soirée du Nouvel An. Donc, impossible de géolocaliser ses déplacements en ce 1er janvier. On ne peut que le croire sur parole. Il précise aussi qu'après avoir quitté la maison de sa mère, il est allé faire quelques courses dans 2 magasins, Whole Foods et CVS. Après avoir fini ses courses, Brian a, semble-t-il, tourné en rond parce que, vu qu'il a perdu son téléphone, il n'avait pas de GPS. Voilà, il s'est paumé et il est rentré seulement à 20h chez lui. Les enquêteurs vont donc regarder les vidéos de surveillance des magasins que Brian dit avoir visités pour voir comment il se comporte. À ce moment-là, le 1er janvier, quand il sort de chez lui, Anna n'est pas encore portée disparue, mais c'est important dans ce genre d'affaires de voir le comportement du mari. Eh bien, dans un premier temps, on va rien voir du tout, parce que Brian, il apparaît pas du tout sur les caméras de surveillance de Whole Foods et de CVS. Voilà, il y a un pauvre type au FBI qui va s'amuser à regarder toutes les vidéos d'images de caméras de surveillance. Ce qui ne veut rien dire, hein, bien évidemment, on parle des images de caméras de surveillance et pas des images de vidéos de caméras de surveillance. Mais vous avez compris, et à aucun moment, Brian n'apparaît dessus. C'est le trou noir, on ne sait pas ce qu'il fait en cet après-midi du 1er janvier. Alors oui, il va voir sa mère, qu'il quitte ensuite vers le milieu fin d'après-midi, et il ne rentre chez lui qu'à 20h parce que apparemment il s'est perdu. La seule trace que l'on a de Brian, elle date du 2 janvier, plus de 24 heures après le départ d'Anna, soit 10 ans pour le travail, lorsqu'il est filmé par une caméra de surveillance alors qu'il se rend dans un bar à jus avec l'un des garçons. Il est ensuite filmé également dans un magasin général dans lequel il achète un masque chirurgical, des gants en plastique, plus de $450 de produits de nettoyage, un seau, des bâches, du scotch, de l'eau de Javel, il paie le tout en espèces. Sauf que ce 2 janvier, Brian n'était pas du tout autorisé à sortir de chez lui puisqu'il est assigné par la justice à domicile en ce début d'année 2023 pour diverses affaires judiciaires. Alors, quelle peut bien être l'urgence qui le pousse ce 2 janvier à sortir de chez lui malgré sa condamnation, dont on va parler après, vous en faites pas, en risquant de se faire envoyer en prison. Qui a besoin comme ça de $450 de produits de nettoyage? Mais bon, là j'ai été un petit peu vite, je vous ai parlé de la condamnation de Brian, des 3 garçons du couple, mais on sait même pas comment est-ce qu'ils se sont rencontrés et est-ce qu'ils avaient des problèmes. Est-ce que, comme souvent, on trouve quelque chose en allant fouiller un peu? L'histoire du couple. Anna Lujbici naît à Belgrade en Yougoslavie en 1983. Rien ne ressort vraiment de son enfance et de son adolescence, si ce n'est le fait qu'elle est décrite par ses proches contactés pendant les faits comme une jeune femme ambitieuse, travailleuse, qui a fréquenté l'école décrite comme la plus prestigieuse de Belgrade, le 5e. Elle obtient sans aucun problème son bac et part à l'université pour étudier le français et plus généralement la philologie. Et je me suis pas trompé, j'ai bien dit philologie, mot que j'ai découvert en faisant mes recherches sur cette affaire, qui est un domaine d'étude dans lequel on analyse l'histoire d'une langue à travers ses textes. Voilà, j'espère que j'étais pas le seul à pas savoir et qu'on a tous appris un truc. Pour une fois, je vous fais pas un tuto sur comment se débarrasser d'un corps. Grâce à un programme d'échange universitaire, Anna a eu la chance de partir aux États-Unis au cours de sa première année d'études. Elle est tombée complètement amoureuse du pays, de sa culture, de sa liberté, du climat. Et tout au long de ses études, chaque année, Anna va s'inscrire encore et encore au programme d'échange pour étudier aux États-Unis avant de s'y installer définitivement en 2005 et d'obtenir carrément la double nationalité. Malgré ses diplômes universitaires, il lui est difficile à l'époque de trouver du travail. Elle a un fort accent de l'Est et les Américains ont beaucoup d'a priori, même si elle a fait ses études finalement aux États-Unis avec les échanges universitaires, elle est obligée de faire des travaux dits alimentaire juste pour pouvoir survivre. Elle fait du ménage ici et là, accepte des missions pour des particuliers, jusqu'au jour où elle se retrouve à faire le ménage dans l'appartement d'un certain Brian Walsh. Même si les sources sur le sujet divergent et même le FBI est pas bien sûr de la date de leur rencontre, on pense qu'ils ont pu aussi se rencontrer pour la toute première fois quand Anna était réceptionniste dans un hôtel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Anna et Brian se voient pour la toute première fois en 2008 et rapidement c'est le coup de foudre. Anna va prendre Brian comme amant puisque depuis son arrivée aux États-Unis, elle s'est mariée à un certain Mark Knipp. Alors je vous préviens, on va devoir s'accrocher pendant 2 petites minutes parce que ça va aller un peu vite. Malgré son diplôme de littérature, Anna va donc trouver un poste en tant que réceptionniste dans un hôtel et assez vite, elle va monter les échelons en s'inscrivant dans une formation de gestion hôtelière et dans ce domaine, il y a du boulot. Donc, elle est assez vite recrutée et occupe plusieurs postes de direction dans de grandes chaînes hôtelières du coin. Dans le même temps, elle continue de voir Brian tout en restant mariée à Mark. Et sa double vie ne va pas durer 5-6 mois ou 2-3 ans, mais 6 ans au total, jusqu'à son divorce en 2014. Anna a donc officialisé au même moment sa relation avec Brian et les deux se sont mariés le 21 décembre 2015. Le couple a rapidement eu 3 enfants, l'aîné a 6 ans d'ailleurs au moment de la disparition de sa mère, celui du milieu a 4 ans et le tout dernier est né le 17 décembre 2021. Certains pensent d'ailleurs aujourd'hui que si Anna a protégé autant de temps son mariage avec Mark alors qu'elle le trompait, c'est pour obtenir la fameuse green card, la carte de résident permanent aux États-Unis qu'elle a obtenue au moment de son mariage, mais elle a peut-être pu avoir peur que les autorités américaines lui retirent si le divorce intervenait trop tôt. Milanka, la mère d'Anna, va rendre visite assez régulièrement à sa fille peu après son remariage avec Brian. Elle va passer 16 mois étalée de 2014 à fin 2022 et dira plus tard
« Ils étaient toujours souriants, de bonne humeur, j'ai jamais été témoin d'une dispute ou d'une scène désagréable. Anna ne s'est jamais plainte de Brian. Elle est même venue en Serbie, à Belgrade, seule avec moi pendant 10 jours à partir de fin novembre. Même à ce moment-là, Anna ne s'est plainte de rien, du moins pas auprès de moi. »
En début d'année 2022, Anna obtient un poste de directrice des opérations chez Tishman Spy
bailleur à Washington, grosse entreprise américaine qui gère de l'immobilier à travers le monde, et dans le couple Walsh, heureusement qu'Anna gère parfaitement sa carrière, parce que du côté de Brian, c'est pas glorieux, le mari d'Anna dépense énormément d'argent qui lui proviendrait, d'après ce qu'il dit aux enquêteurs, de la vente d'un logiciel informatique qu'il a créé quand il était à l'université. Sauf qu'en remontant ses antécédents judiciaires, le FBI va se rendre compte que Brian, c'est pas du tout un type que l'on peut croire sur parole.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En 2011, par exemple, alors qu'il est en Corée du Sud pour le mariage de l'un de ses amis, ce même ami lui propose de rester un peu et lui demande si pendant son temps libre, il veut bien s'occuper de vendre des œuvres d'art qui traînent chez lui. Pas grand-chose, hein, une petite statuette chinoise, un croquis de Kei Saring, un artiste américain qui à l'époque se revend quelques milliers de dollars, mais surtout deux tableaux d'Andy Warhol provenant de sa série Shadows qui, quant à eux, peuvent se revendre des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Eh bien Brian, très intelligent, plutôt que de vendre ses deux pauvres tableaux et de prendre sa part, il va aller voir un faussaire, un spécialiste de la reproduction d'œuvres d'art, et va lui demander de faire plusieurs copies. Et il va mettre sur le marché ses copies, qu'il va revendre, l'une d'elles à un consultant en art à Paris pour 145 000 dollars, et puis il va mettre d'autres copies en vente sur eBay pour 100 000 dollars, disant que ses originaux proviennent de sa collection privée et qu'il veut s'en débarrasser. C'est cette fois un marchand d'art californien, Ron Rivlin, qui va en acheter un exemplaire pour 80 000 dollars en 2016. Brian va alors lui livrer le tableau, mais Ron va tout de suite comprendre que quelque chose ne va pas. En fait, le faux tableau a mal été réalisé, la peinture semble trop propre, trop fraîche, trop flashy. Et Ron, tellement persuadé que le tableau est un faux, il va arracher la toile pour prouver que ce qu'il y a derrière la peinture, c'est bien trop neuf pour que la peinture ait été faite pendant les années 80. Sauf que le temps qu'il remarque tout ça, vous imaginez bien que Brian, il s'est déjà barré. Hein. Donc Ron, il va utiliser ses contacts pour retrouver Brian Walsh. Il va malheureusement pas réussir à le recontacter, mais il va tomber sur Anna. Ron va donc contacter Anna en lui disant que voilà, Brian l'a arnaqué et qu'il aimerait bien récupérer son argent. Au début, Anna, elle va pas trop y croire. Elle va en parler à son mari qui va envoyer un email à Ron.
Bonjour, merci d'avoir appelé ma femme. Elle a dit que vous étiez très gentil et respectueux, tout comme je me souvenais de vous lors de notre première interaction. Je ne vous évitais pas, je travaillais beaucoup, désolé, je ne pouvais pas répondre au téléphone à tout moment. Alors désolé, il n'est pas nécessaire de faire intervenir des avocats. Si les tableaux sont faux, je vous rembourserai l'argent. Je rembourserai les 80 000 dollars et vous pourrez me renvoyer le tableau, car il y a eu une sorte de confusion. Je dois enquêter sur ce qui se passerait réellement ici parce que j'étais entièrement sûr, vous savez, que c'était un vrai. Je sais pas, je dois vérifier ce qui se passe. Je pense que je me suis fait avoir.
Brian va mettre du temps à renvoyer l'argent, mais Ron ne va pas lâcher et il va réussir à obtenir environ 30 000 dollars sur les 80 000 versés. Ron va donc déposer plainte à l'époque et contacter le FBI pour qu'ils enquêtent sur ces ventes de faux tableaux. Le bureau d'investigation va remonter jusqu'à Brian, découvrir son joli train de vie à cause de ces faux tableaux. Ils vont découvrir qu'il ne parle plus du tout à son ami de Corée du Sud à qui il a finalement complètement volé les œuvres d'art. Il les a copiées mais ne lui a jamais rendu les originaux. L'enquête et les accusations concernant Brian qui datent de 2016 vont révéler aux yeux des enquêteurs de l'époque que Brian est ce que l'on appelle un sociopathe et un mythomane. Il ne ressent aucune empathie, s'en fiche complètement des normes sociales et des codes culturels qui nous entourent et qui font de nous des personnes civilisées. Dès que la situation lui échappe, il peut péter un plomb et faire ressortir tout de suite son vrai visage. Elle est là la dangerosité des sociopathes. Vous ne les voyez que lorsque la situation est complètement hors de contrôle. Et des situations qui lui ont échappé, Brian, il en a connu quelques-unes. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il est bien plus qu'impulsif. L'un de ses anciens amis interrogé à l'époque explique que Brian lui a volé $500,000. Il lui a demandé de contracter un prêt à son nom qu'il devait lui rembourser. Il a pris l'argent et a fui. D'autres expliquent que lors des dîners organisés dans certains restaurants, Brian avait tendance à s'enfuir sans payer, prétextant tout et n'importe quoi pour quitter le restaurant. Suite à ces arnaques, Brian a été accusé de fraude et il a été assigné à résidence en attente de sa condamnation pour être sûr qu'il ne disparaisse pas dans la nature. En début 2023, il est donc encore assigné à résidence et Brian n'a le droit de sortir qu'à des périodes très précises, comme pour aller chercher ses enfants à l'école par exemple. Et Anna s'est même portée caution pour lui devant le juge en demandant à ce que son mari ne parte pas en prison, mais qu'il soit plutôt assigné à résidence pour rester avec les enfants. Mais ce qui fait surtout dire au FBI que Brian est certainement bien plus dangereux qu'il n'en a l'air, c'est que des amis de son père, Tom Walsh, décédé en 2018, vont contacter les enquêteurs qui travaillent sur la disparition d'Anna pour confirmer dans un premier temps que Brian est bel et bien un sociopathe, mais surtout qu'il a arnaqué son propre père en lui volant $800,000 qui devait servir à payer son crédit de maison et que celui-ci, avant de mourir, ne lui parlait plus et avait complètement coupé les ponts. À la mort de son père, Brian va carrément se précipiter dans la maison du patriarche pour détruire son testament qui le déshérite et il va en profiter pour voler plusieurs œuvres d'art appartenant à son père. Heureusement, des proches de Monsieur Walsh avaient pris le testament en photo et Brian n'a pas pu nier l'avoir détruit et il n'a hérité de rien. Et à la base, avant ce vol d'argent, tous les proches sont unanimes, Brian s'entendait parfaitement avec son père et malgré tout, il n'a pas hésité une seule seconde à lui prendre ses $800,000 et à disparaître. Le docteur Fred Pescator, un ami du père de Brian, déclare
« Je suis allé en voyage en Chine avec Brian et son père, Tom. J'ai été témoin de ce dont Brian était capable. Je l'ai vu tenter de faire sortir clandestinement des antiquités de Chine. Lorsque Brian a été confronté, il a ramassé un poteau et a littéralement tenté de tuer 4 ou 5 gardes venus lui parler de son vol. » Brian est une personne très colérique et physiquement violente.
Le docteur Fred Pescator précise aussi qu'avant de rencontrer Anna, Brian a fait un séjour de longue durée à l'hôpital psychiatrique Austin Riggs Center pour être soigné sur sa mythomanie, ses vols et le fait qu'il ne ressentait pas grand-chose vis-à-vis des autres. Si on résume un peu cette partie de l'HVF, Brian est donc décrit par ses proches, les psychiatres et ses antécédents judiciaires comme un type menteur, voleur, sociopathe, violent, qui a trahi son propre père sans aucune raison. Alors, est-ce qu'un type avec ce profil aurait pu faire du mal à sa propre femme, la mère de ses trois enfants ? Mais dans ce cas, comme toujours, quel est le motif ? Je veux dire, Anna était parfaitement au courant des arnaques de son mari. Elle savait qu'il n'avait pas de travail, qu'il était assigné à résidence vu que de toute façon elle s'est portée caution pour lui. Anna, c'est tout de son mari. Je veux dire, Brian ne cachait rien. Pas comme Jean-Claude Roman, là, la dernière HVF qui se passait en France. Donc, le FBI continue de creuser. Des recherches terrifiantes. Le 1er janvier, on sait donc que Brian prend sa voiture sans son téléphone qu'il dit avoir perdu. Il part toute la journée, rend visite à sa mère et rentre très tard vers 20h puisqu'il dit s'être perdu. Le 2, comme je vous le disais, on sait également qu'il achète $450 de produits de nettoyage. Ce même jour d'ailleurs, le téléphone d'Anna borne près de leur domicile à Cohasset. Le 3 janvier, journée que l'on n'a pas encore traitée, Brian est vu par des enregistrements de caméras de surveillance en train de jeter un gros sac poubelle noir dans une benne à ordures à l'abri des regards derrière une entreprise située près du domicile de sa mère au 371 Paradise Road. Il se rend ensuite quelques centaines de mètres plus loin pour jeter un second sac poubelle. Malheureusement, à ce stade de l'enquête, il est trop tard pour fouiller les bennes, leur contenu a été incinéré. Brian est placé placé en détention, accusé d'avoir menti aux enquêteurs, d'avoir tenté de les induire en erreur. À ce stade, il n'est pas encore accusé de meurtre. Alors bon, parce qu'il faut quand même le faire, le FBI va passer au peigne fin l'ébène. Ils vont fouiller la déchetterie du coin et retrouver par miracle des serviettes ensanglantées, des produits de nettoyage, une scie à métaux, une hachette, un sac à main et des bottes appartenant à Anna, ainsi que sa carte de vaccination. Des tests ADN sont demandés. Avec ces éléments plus qu'inquiétants, le FBI va obtenir un mandat pour fouiller le véhicule de Brian, qui, par chance, n'a pas bougé depuis la disparition d'Anna, et ils vont se rendre compte qu'à l'arrière, les sièges sont rabattus et qu'une bâche en plastique a été positionnée là, comme ça, à l'arrière sur les sièges rabattus, comme pour protéger l'habitacle de la voiture. Mais de quoi ? Ce qui va définitivement plonger l'affaire Anna Walsh dans l'horreur et accuser, comme trop souvent son mari, de s'être débarrassé d'elle, ce sont les recherches internet que Brian a effectuées sur l'iPad de son fils, et je vais tous vous les citer pour que vous vous rendiez bien compte de ce qui a pu se passer à l'intérieur du domicile. 27 décembre 2022. Quel est le meilleur moyen de divorcer pour un homme ? 1er janvier 2023, 4h55 du matin. Combien de temps avant qu'un corps commence à sentir mauvais ? Comment empêcher un corps de se décomposer ? 10 façons de se débarrasser d'un cadavre si vous en avez vraiment besoin. Combien de temps faut-il pour qu'une personne manque pour hériter ? Peut-on jeter des parties du corps ? Combien de temps dure l'ADN ? Peut-on identifier des restes partiels ? Mutilation et meilleure façon de se débarrasser d'un corps. Heureusement qu'il n'est pas français, le type aurait utilisé les HVF pour suivre des exemples de tueurs traités sur la chaîne. Pardon, je reprends. 2 janvier. Comment nettoyer le sang d'un parquet ? Luminol pour détecter le sang. Que se passe-t-il lorsque vous mettez des parties du corps dans de l'ammoniac ? Vaut-il mieux ranger les vêtements de la scène de crime ou les laver ? Scie à métaux, les meilleurs outils pour démembrer. Peut-on être accusé de meurtre sans corps ? Pouvez-vous identifier un corps avec des dents cassées ? 3 janvier. Qu'arrive-t-il aux cheveux d'un cadavre ? Quelle est la vitesse de décomposition d'un corps trouvé dans un sac en plastique par rapport à celui d'une surface dans les bois ? Le bicarbonate de soude peut-il masquer ou donner une bonne odeur au corps ? Difficile de faire plus explicite, je veux dire, moi j'ai ce genre d'historique. C'est pour le travail bien évidemment, mais Brian, pourquoi est-ce qu'il irait taper ce genre de choses en pleine nuit du 1er janvier à 4h55 du matin, alors que, d'après ses dires, sa femme est partie à 4h ? Le 8 janvier, le sous-sol de la maison Walsh est complètement retourné par les enquêteurs qui découvrent un long couteau de cuisine taché de sang. 10 jours plus tard, la justice accuse officiellement Brian Walsh du meurtre d'Anna et un motif est présenté dans le dossier. Les enquêteurs chargés de fouiller les réseaux sociaux d'Anna ont remarqué que depuis quelques temps, elle semblait assez proche d'un collègue, un certain Abdullah Al-Muteri, qui postait pas mal de photos avec Anna sur son Instagram personnel. Les deux semblent assez proches, heureux, jusque-là rien de bien fou. Sauf que si on regarde certains détails, que ce soit sur l'Instagram d'Anna ou celui de son collègue, eh bien Anna ne semble pas porter son alliance. Est-ce que Anna commençait à en avoir marre d'avoir un mari arnaqueur, prochainement condamné pour fraude, assigné à résidence par la justice ? Brian, faut le dire, c'est un loser, il a rien, c'est un arnaqueur qui a plus de 40 ans, sa vie est nulle, alors qu'à côté, Anna a réussi à monter les échelons, c'est quelqu'un d'important avec un haut poste qui vit la belle vie à Washington, qui vend des propriétés de luxe et qui a elle-même investi dans des biens qui ont une valeur actuellement de 2,7 millions de dollars à son nom. Alors pourquoi elle s'embêterait avec un type comme Brian, même s'ils ont fait 3 enfants très rapidement ? Il y a 10 ans, Anna s'était même plainte de Brian auprès des autorités, disant qu'il avait menacé de la tuer et qu'elle avait peur pour sa vie. Elle n'a pas souhaité porter plainte, mais si on cherche d'autres signes de violence, on voit qu'en mai 2018, Anna a posté une photo sur son Instagram avec un bleu au-dessus du sourcil, comme si elle avait reçu un coup. 10 ans,
une légère commotion, une hanche bleue et une coupure. Hashtag de vulnérabilité.
Inquiet, la plupart de ses amis lui ont demandé ce qu'il s'était passé. Anna a simplement répondu qu'elle avait glissé sur le sol. Pour les enquêteurs, le scénario est simple et c'est celui qui sera d'ailleurs présenté au procès.
Anna avait certainement prévu de quitter Brian et il a dû le remarquer au fil des mois. On sait d'ailleurs qu'il avait des soupçons à propos du supposé amant d'Anna puisqu'il a visité le profil Instagram de l'homme une dizaines de fois ces dernières semaines. Anna rentrait de moins en moins à la maison, passait parfois plusieurs semaines à Washington pour le travail officiellement. Sauf que si Anna part, Brian s'effondre, il n'a pas d'argent, pas de boulot, il n'est rien comparé à sa femme.
Dans la nuit du 1er janvier 2023, une dispute éclate entre les deux. Anna lui dit enfin qu'elle souhaite divorcer, qu'elle ne veut plus de cette vie, qu'il est un loser. Brian pète un plomb, se jette sur sa femme alors que les enfants dorment à l'étage, la frappe, l'étrangle, attrape un couteau et poignarde encore et encore et encore. Anna Walsh s'effondre sans vie. Dans les jours qui suivent, on ne sait pas où est caché le corps ni quand Brian décide de découper, puisque l'après-midi, la babysitter est à la maison, mais il réussit à faire ça discrètement, sûrement la nuit lorsque les trois enfants dorment. La suite, on la connaît grâce aux vidéos de surveillance. Après avoir découpé Anna et nettoyé la maison de fond en comble, il part jeter les restes dans des bennes à ordures et le 4 janvier, quand l'employeur de sa femme s'inquiète, il déclare enfin sa disparition. Il y a quelques années, sans vidéo de surveillance ni recherche internet, Brian aurait certainement pu s'en sortir, disant qu'il ne sait rien, et l'affaire serait devenue un cold case. Mais là, il est dans une situation très compliquée puisque tout le pointe du doigt. À l'heure où je boucle cet HVF, le sang retrouvé sur les tissus, dans la déchetterie et le couteau dans le sous-sol de la famille n'ont toujours pas été analysés puisque l'ADN prélevé est en mauvais état et les avocats de la défense et de l'accusation se battent les uns pour que cet ADN en mauvais état soit sorti du dossier, les autres pour que l'ADN soit analysé avec une nouvelle technique. Et vous imaginez bien que si l'ADN retrouvé sur les tissus ensanglantés et le couteau match avec celui d'Anna, Brian aura beaucoup de mal à continuer de plaider non coupable comme il l'a fait dernièrement. Les avocats de Brian de leur côté sont formels et ils plaident la même chose depuis le début. Pas de corps, pas de crime. Il faut que l'accusation puisse prouver formellement que Brian a tué Anna et qu'il s'est débarrassé d'elle. Les trois petits garçons Walsh ont depuis été placés sous la garde du ministère de l'Enfance et de la Famille du comté. Plusieurs familles se sont proposées pour les accueillir et ne pas les séparer. Les petits semblent ne rien avoir entendu dans la nuit du 1er janvier et au vu de leur âge, ils n'ont pas pu aider à faire avancer l'enquête. Abdullah Al-Muteri, l'amant supposé d'Anna, en tout cas c'est ce que Brian avait l'air de croire, ne s'est pas exprimé dans les médias mais a posté plusieurs messages pour mobiliser et retrouver Anna. Le dernier signe de vie d'Anna Walsh est un mot retrouvé sur une boîte de champagne qu'elle a offert à Brian lors de la soirée du Nouvel An, lui disant
« Waouh, 2022, quelle année! Et pourtant nous sommes toujours ensemble. Faisons de 2023 une meilleure année. Nous sommes les auteurs de nos vies. Courage, persévérance et compensation. Je t'aime, Anna. »
Je vous laisse donc seul jury de cette affaire. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Brian, pendant le futur procès qui risque d'arriver dans les prochains mois, risque plus d'être reconnu coupable ou non coupable. C'était Max Keyes. J'espère que cette affaire vous a intéressé malgré l'horreur des faits. On se retrouve vendredi prochain 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.